Chapitre 9. Les Havres gris. Le nettoyage demanda en effet beaucoup de travail, mais prit moins de temps que Sam ne l'avait craint. Au lendemain de la bataille, Frodo chevaucha jusqu'à Grande Creusée et libéra les prisonniers des Troubliettes. L'un des premiers découverts n'était autre que Frédégar Bolger, n'ayant plus de gros lard que le nom. Il avait été pris à la tête d'une bande de rebelles débusqués par les bandits dans leur repaire à Blairotière, près des collines de Scarie.
« Tu aurais mieux fait de venir avec nous, finalement, pauvre vieux Frédégar !»
dit Pipin, comme il le transportait au dehors, trop faible pour marcher. Il ouvrit un œil et esquissa bravement un sourire.
« Qui est ce jeune géant à la voix tonitruante? Pas le petit Pipin? Tu portes du combien en chapeau, maintenant ?»
Puis ce fut le tour de Lobélia. Elle semblait très vieille et très frêle, la pauvre, quand ils la délivrèrent de la sombre et étroite cellule où elle était confinée. Elle insista pour sortir toute seule, clopinant sur ses jambes. Et elle reçut un tel accueil, et il y eut tant d'applaudissements et de hurrahs quand elle apparut, appuyée sur le bras de Frodo, mais toujours avec son parapluie à la main, qu'elle en fut toute retournée, et elle fondit en larmes quand la voiture l'emmena. Jamais de toute sa vie, elle n'avait été populaire. Mais elle fut anéantie par la nouvelle de l'assassinat de Lotto, et elle ne voulut pas retourner à cul-de-sac. Elle rendit le trou à Frodo, et retourna vivre auprès des siens, les serre-ceintures de Bourdedur. À la mort de la pauvre femme au printemps suivant, elle avait après tout plus de 100 ans, Frodo fut surpris et très ému. Elle lui avait laissé tout ce qui restait de sa fortune et de celle de Lotto, afin de venir en aide aux hobbits laissés sans foyer par les troubles. Ainsi, ce fut la fin de leur querelle. Le vieux Will Pied-Blanc était resté aux Troubliettes plus longtemps que quiconque. Et bien qu'il eût peut-être été traité moins durement que d'autres, en sa qualité de maire, il lui faudrait passablement s'engraisser avant d'avoir de nouveau la tête de l'emploi. Ainsi, Frodo accepta de lui servir d'adjoint jusqu'à ce que M. Pied-Blanc eût retrouvé la forme. La seule mesure qu'il adopta en tant que maire adjoint fut de ramener les connétables à leur nombre et à leurs fonctions d'avant. On laissa à Merry et à Pipin le soin de débusquer les derniers bandits qui restaient, ce qu'ils ne tardèrent pas à faire. Les bandes du Sud, en apprenant ce qui s'était passé à la bataille de Belleau, fuirent le pays et n'offrirent guère de résistance aux Thain. Avant la fin de l'année, les quelques survivants furent encerclés dans les bois et ceux qui se rendirent furent reconduits aux frontières. Entre-temps, le travail de restauration avança rondement et Sam resta fort occupé. Les hobbits peuvent s'affairer comme des abeilles quand l'humeur les emprend et que le besoin se fait sentir. Des milliers de mains volontaires se mirent alors à l'œuvre parmi toutes les tranches d'âge, de celles petites mais agiles, des garçons et des filles hobbits, à celles usées et noueuses, des grands-pères et grands-mères. Dès avant Yule, plus une seule brique des nouvelles maisons des connétables ou de toute autre construction des hommes à charquin n'était encore debout. Mais les briques servirent à rénover de nombreux trous anciens, qui devinrent plus douillets et plus secs. On découvrit de grandes réserves de marchandises, de denrées et de bières cachées par les bandits dans des baraques, des granges et des trous abandonnés, en particulier dans les tunnels de Grande Creusée et dans les vieilles carrières de Scarie. Si bien que la fête de Yule cette année-là fut beaucoup plus gaie qu'on ne l'espérait. L'une des premières choses entreprises à Hobbitville, avant même la destruction du nouveau moulin, fut le nettoyage de la colline et de cul-de-sac et la réfection de la rue du Jet-Sac. Le devant de la nouvelle sablonnière fut entièrement aplani et transformé en un grand jardin abrité, et de nouveaux trous furent creusés sur la face sud, dans la colline même, et revêtus de briques. L'ancêtre retrouva son logis au numéro 3, et il répétait souvent sans se soucier à qui
« Aucun vent n'est si mauvais qu'il n'amène rien de bon à personne, comme je dis toujours, et tout est bien qui finit mieux. »
Il y eut quelques discussions sur le nom à donner à la nouvelle rue. Jardin de la bataille fut envisagé, ou Meyer's Mules. Mais au bout d'un moment, suivant leur bon sens habituel, les hobbits l'appelèrent simplement Nouvelle Rue. Il était de bon ton chez les plaisantins de Belleau de lui donner le nom de Cul de Charquin. Les arbres représentaient la plus grande perte et les plus gros dégâts, car sur l'ordre de Charquin, ils avaient été coupés sans discernement un peu partout à travers le comté. et c'est ce qui afflige à Sam plus que toute autre chose. D'abord, cette blessure serait longue à guérir, et seuls ses arrière-petits-enfants, se disait-il, verraient le comté comme il devait être. Puis un jour, après des semaines de labeur où il n'avait pas eu une seconde pour se remémorer ses aventures, il se rappela soudain le cadeau de Galadriel. Il sortit le petit écrin et le montra aux autres voyageurs, car tout le monde les appelait ainsi à présent. Et il leur demanda conseil.
« Je me demandais quand tu finirais par y penser, » dit Frodo. « Ouvre-le !»
Il était rempli d'une poudre grise, douce et fine, au milieu de laquelle se trouvait une graine, comme une petite noix à écale d'argent.
« Qu'est-ce que je peux en faire ?»
dit Sam.
« Lance-la dans l'air par un jour de vent et laisse-la faire son œuvre, »
dit Pipin.
« Sur quoi ?»
demanda Sam.
« Choisis un endroit comme pépinière et tu verras ce qui arrive aux plantes qui y poussent, »
dit Merry.
« Mais je suis sûr que la dame m'en voudrait de tout garder pour mon propre jardin, vu qu'il y a tellement de gens qui ont souffert, »
dit Sam.
« Sers-toi de ta tête et de toutes les connaissances que tu as déjà, Sam, » dit Frodo. « Puis utilise ce qu'elle t'a donné pour t'aider dans ton travail et l'améliorer. Use-en avec parcimonie. Il n'y a pas grand-chose dans cette boîte, et je suppose que chaque grain est précieux. »
Sam planta donc de jeunes arbres partout où il y avait eu des spécimens particulièrement beaux ou appréciés, et il déposa un grain de la précieuse poudre dans la terre au pied de chacun d'eux. Il sillonna tout le comté dans l'accomplissement de cette tâche. Mais s'il prêta une attention particulière à Hobbitville et à Bello, personne ne le lui reprocha. Et quand il eut terminé, il s'aperçut qu'il lui restait encore un peu de poudre. Aussi se rendit-il à la pierre des trois quartiers, qui ne pouvait pas être plus centrale, et il jeta dans l'air tout ce qui lui restait avec sa bénédiction. Il planta la petite noix argentée dans le champ de la fête où l'arbre poussait autrefois, et il se demanda ce qui en sortirait. Pendant tout l'hiver, il s'efforça de son mieux à la patience, et il dut se retenir pour ne pas aller constamment vérifier s'il se passait quelque chose. Le printemps surpassa ses espoirs les plus fous. Ces arbres se mirent à pousser et à grandir, comme si le temps était pressé et voulait condenser en un an le travail de 20 autres. Dans le champ de la fête, jaillit un bel et jeune arbre. Il avait une écorce argentée et de longues feuilles. Et en avril, il était couvert de fleurs d'or. C'était en fait un Malorn, et il fit l'émerveillement du voisinage. Au cours des années suivantes, il crut en grâce et en beauté. Sa renommée s'étendit de par les terres et les gens faisaient de longs voyages pour venir l'admirer. L'unique Malorn à l'ouest des montagnes et à l'est de la mer, et l'un des plus beaux du monde. L'an 1420 dans le comté fut remarquable à tout point de vue. Non seulement il y eut un soleil magnifique et de délicieuses pluies, en temps voulu et en parfait équilibre, mais on eût dit qu'il y avait autre chose, un air de richesse et de croissance, et l'éclat d'une beauté plus grande que celle des étés de contrées mortelles qui viennent et passent en cette terre du milieu. Tous les enfants nés cette année-là, et ils furent nombreux, étaient beaux et en santé, et la plupart avaient une opulente chevelure dorée, rare autrefois chez les hobbits. Il y eut une telle abondance de fruits que les jeunes hobbits étaient bien prêts de nager dans les fraises et la crème, et plus tard, ils s'asseyaient dans la pelouse sous les pruniers et mangeaient, jusqu'à ce que les noyaux fussent comme de petites pyramides ou des tas de crânes amassés par un conquérant, puis ils reprenaient leur chemin. Et nul n'était malade, et tous étaient heureux, sauf ceux qui avaient pour devoir de tondre le gazon. Dans le quartier sud, les vignes étaient chargées de fruits et la récolte de feuilles fut ahurissante. Et il poussa partout tant de blé qu'à la moisson, toutes les granges étaient bourrées. L'orge du quartier nord fut d'un si bon cru que l'on se souvint longtemps de la bière du Malte de 1420 qui devint synonyme d'excellence. De fait, une génération après, on pouvait encore entendre à l'auberge, après une bonne pinte de bière bien méritée, un vieux grand-père poser sa chope avec un soupir de satisfaction.
« Ah, c'était de la vraie 1420, ça !»
Sam demeura tout d'abord chez les Casbonne avec Frodo. Mais quand la nouvelle rue fut terminée, il s'y installa avec l'ancêtre. En plus de toutes ses autres occupations, il s'employa à superviser le nettoyage et la restauration de cul-de-sac. Mais il partait souvent dans le comté pour ses travaux de sylviculture. Il n'était donc pas chez lui début mars et ne sut pas que Frodo avait été malade. Le 13 de ce mois, le fermier Casbonne trouva Frodo étendu sur son lit. Il serrait dans le creux de sa main une gemme blanche suspendue à une chaîne autour de son cou et semblait rêver à demi.
« Il est parti à jamais, » disait-il. « Et maintenant, tout est sombre et vide. »
Mais l'accès lui passa. Et quand Sam rentra le 25, Frodo s'était entièrement remis et ne lui dit rien de son état. Entre-temps, Cul-de-sac avait été remis en ordre et Merry et Pipin arrivèrent de Creux-le-Cric avec tous ses effets et ses anciens meubles, si bien que le vieux trou retrouva très vite son aspect d'antan. Quand tout fut enfin prêt, Frodo dit
« Quand donc viendras-tu habiter avec moi, Sam ?»
Sam eut l'air un peu gêné.
« Tu n'es pas obligé d'emménager tout de suite, si tu ne veux pas, » dit Frodo. « Mais tu sais que l'ancêtre reste tout près, et la veuve Rombelle va très bien s'en occuper. »
« C'est pas ça, monsieur Frodo, »
dit Sam, et son visage s'empourpra.
« Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ?»«
C'est Rosie, Rose Casbonne, »
dit Sam.
« On dirait qu'elle a pas du tout aimé que je parte à l'étranger, la pauvre. Mais comme j'avais pas parlé, elle pouvait rien dire. Et j'ai pas parlé parce que j'avais quelque chose à faire avant. Mais là, j'ai parlé et elle a dit « Eh bien, t'as perdu un an, alors pourquoi attendre encore ?»«
Perdu que j'ai fait ? Je dirais pas ça. »
« N'empêche, je vois ce qu'elle veut dire. Je me sens déchiré en deux si vous me passez l'expression. »«
Je vois, » dit Frodo. « Tu veux te marier, mais tu veux aussi vivre avec moi à cul-de-sac. Mais mon cher Sam, quoi de plus facile ? Marie-toi au plus vite, puis emménage chez moi avec Rosie. Il y a assez de place à cul-de-sac pour toute ta famille, aussi grande que tu le désires. »
Ainsi, tout était entendu. Sam Gamgee épousa Rose Casbonne au printemps de l'an 1420, reconnu aussi pour ses mariages. Et ils s'installèrent à cul-de-sac. Et si Sam s'estimait chanceux, Frodo savait qu'il l'était lui-même davantage, car aucun hobbit dans tout le comté n'avait droit à autant de prévenance que lui. Une fois tous les travaux de restauration planifiés et mis en train, il adopta une existence paisible où il passa beaucoup de temps à écrire et à relire ses notes. Il quitta ses fonctions de maire adjoint lors de la foire libre de la mi-été et ce cher vieux Will Pied-Blanc passa encore 7 autres années à présider au banquet. Merry et Pipin vécurent quelque temps ensemble à Creux-le-Cric et il y eut beaucoup d'allées et venues entre le pays de Bouc et Cul-de-sac. Les deux jeunes voyageurs firent grand effet dans le comté avec leurs chansons, leurs récits et leurs parures, sans oublier leurs merveilleuses fêtes. On les qualifiait de « princiers », toujours en bonne part, car tous les cœurs se réchauffaient à les voir passer à cheval avec leurs si brillantes mailles et leurs boucliers si somptueux, riant et chantant des airs des pays lointains. Et s'ils étaient devenus de grands et magnifiques personnages, ils demeuraient inchangés par ailleurs, s'ils n'étaient pas effectivement plus courtois, plus joviaux et plus enjoués qu'ils ne l'avaient jamais été. Frodo et Sam reprirent toutefois un habillement ordinaire, sauf qu'en cas de besoin, ils portaient tous deux de longues capes grises, finement tissées et fermées à la gorge par de jolies broches. Et M. Frodo portait toujours sur une chaîne un joyau blanc qu'il avait coutume de tripoter entre ses doigts. Toute chose allait bien à présent, et il y avait toujours espoir qu'elle puisse encore s'améliorer. Et Sam fut aussi occupé et comblé que même un hobbit eût pu le souhaiter. Rien ne vint assombrir toute cette année pour lui, hormis une vague inquiétude au sujet de son maître. Frodo délaissa tranquillement toutes les affaires du comté et Sam fut peiné de voir le peu d'honneur qui lui était rendu dans son propre pays. Peu de gens savaient ou voulaient savoir ce qu'il avait accompli et quelles aventures il avait vécues. Leur respect et leur admiration allaient surtout à M. Meriadoc, à M. Pérégrin et, sans qu'il s'en doutât, à Sam lui-même. Et à l'automne reparut l'ombre de vieux soucis. Un soir, Sam entra dans le bureau et il trouva son maître très étrange. Il était extrêmement pâle et ses yeux semblaient voir des choses très lointaines.
« Qu'avez-vous, monsieur Frodo ? »
demanda Sam.
« Je suis blessé, »
répondit-il.
« Blessé. je ne guérirai jamais réellement. »
Mais alors il se leva. La crise sembla passer et, dès le lendemain, il semblait tout à fait lui-même. Ce n'est que par la suite que Sam se rappela la date, le 6 d'octobre. 2 ans plus tôt, ce jour-là, il faisait noir dans le vallon au pied de Montauvan.